Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs de Radio Présence, nous continuons notre feuilleton concernant David. J'ose pas dire l'épisode de Netflix qui suit pour ces deux livres de Samuel que nous continuons de commenter, mais nous avons commenté en parlant de le grand événement de la mort de Saül et de Jonathan et de l'éloge poignant de David après leur mort. Et la première chose qu'il fait après cet événement décisif, parce qu'il va l'amener à être pleinement roi d'Israël, c'est de demander au Seigneur comment connaître la volonté du Seigneur. Et la pratique, nous l'avons dit la dernière fois, antique, c'était de consulter par des sortes de dés ou de bâtonnets, donc que l'on agitait et on sortait pour voir si c'était ceci ou cela. Donc on consultait plusieurs fois par oui ou par non, mais ça n'a pas beaucoup duré après. Mais malgré tout, tout ce que fait David, c'était vraiment de savoir qu'est-ce que veut le Seigneur. Et la question qu'il pose, en effet, avec l'utilisation de ces Ourim et Thummim, c'est la suivante: monterai-je dans l'une des villes de Juda? Alors la consultation donne: monte, répond le Seigneur. Autre consultation: où monterai-je? Où est-ce que je vais monter? Reprit David. Et la réponse fut: à Hébron. Hébron, c'est au sud de Jérusalem. Nous aimerions, nous aussi, pouvoir interroger Dieu avec cette facilité pour avoir l'assurance de faire sa volonté. Et n'est-ce pas notre désir le plus profond, au-delà de toutes nos convoitises ou volontés propres qui mettent un écran entre Dieu et nous? Et le livre des psaumes, attribué à David pour l'essentiel, vous savez, laisse percer souvent un cri de l'âme tel celui-ci: enseigne-moi à faire tes volontés, car c'est toi mon Dieu. C'est le psaume 143, au verset 10. Et le psaume le plus long, le 119e, vous savez, et qui est une contemplation des voies de Dieu, qui comporte 23 couplets de 8 versets, on appelle les octonaires pour cela, et donc est une longue méditation sur la loi du Seigneur. Et ce psaume demande comment être de plus en plus capable de discerner ses volontés. Et voilà ce que dit ce psaume en plusieurs versets: puissent mes voix se fixer à observer tes volontés. Ou bien: tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Encore: je trouve en tes volontés mes délices, je n'oublie pas ta parole. Autre verset: ton témoignage, voilà mes délices. Vous voyez, des délices, ça revient. Ton témoignage, voilà mes délices, tes volontés, mes conseillers, c'est ça mes conseillers. Encore: enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes volontés, à les garder, j'aurai ma récompense. Et enfin il y aurait encore d'autres exemples dans ce long psaume 119e ou 118e dans la Vulgate: je tends les mains vers tes commandements que j'aime, tes volontés, je les médite. Oui, nous pourrions continuer cette litanie de la complaisance dans la volonté de Dieu, et qui est la joie la plus vraie de l'être humain, foncièrement appelé à la communion avec son Dieu. Et pour des êtres doués d'intelligence et de volonté, la communion passe par l'union des volontés, expression sûre de l'amour et de l'amitié. Union, communion des volontés. Et David a parfois consulté les sorts sacrés en des circonstances pressantes ou décisives, comme celles que nous évoquions tout de suite en commençant, mais son intuition de la volonté du Seigneur s'est affinée progressivement, à mesure qu'il entrait dans son amitié. Et d'ailleurs, quand on a avec des amis, donc des gens qui nous sont très proches, on devine ce qu'ils souhaitent, on devine ce qu'ils ressentent. Et si on les aime vraiment et réciproquement, cela nous amène à discerner avec une certaine facilité, une grande délicatesse en tout cas, ce qu'ils peuvent souhaiter. Et le progrès dans la vie spirituelle, de même, est lié à un discernement de plus en plus sûr de ce que Dieu veut pour nous. On le sent, on le ressent, on le pressent. Et ce n'est que dans cette perspective qu'il est possible de comprendre ce qu'est l'obéissance. Son mystère est coextensif au christianisme, puisque Jésus s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, comme chante l'hymne de la lettre de saint Paul aux Philippiens, et qui constitue, vous savez, le leitmotiv des trois jours saints, de la fin de la semaine sainte, avant le jeudi saint, vendredi saint et samedi saint dans les différents offices. Et il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Christus factus est obedience pro nobis, comme chante l'antienne grégorienne qui revient tout le temps dans ces trois derniers jours. Donc, le Seigneur s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux voit dans l'obéissance la clé des mystères liés de l'incarnation et de la rédemption. Et que, quand il reprend, en le modulant quelque peu, le psaume 40, et que voici, et donc, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. L'accomplissement parfait par le Christ de la volonté du Père, même si elle comportait l'absorption du calice de la passion, Seigneur, ce calice s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté, et donc était un besoin, donc l'accomplissement parfait de la volonté du Père était un besoin de son cœur de fils, car sa volonté divine était la même que celle de son Père. Et il a dit à ses apôtres au soir de la dernière scène, avant de partir au mont des Oliviers, « Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. » C'est Jean 14, 31, c'est une formule assez extraordinaire et sur laquelle nous terminons.